Ce que tu as besoin ce matin, c'est du Seigneur. Il n'y a rien que tu as besoin de plus que Dieu. La présence de Dieu, l'Esprit de Dieu peut faire ce que l'homme ne peut pas faire. Et on a besoin de Dieu, mais pour que Dieu vienne, il faut invoquer son nom. La parole de Dieu dit que ceux qui invoquèrent le nom de l'Éternel, Dieu répond. Dieu répond à ceux qui invoquent son nom. Est-ce que ce matin, tu es prêt à juste demander au Seigneur de venir te visiter, te rencontrer? Fermons nos yeux et prions ensemble. Seigneur, vois-nous les mains tendues vers toi ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous rencontrer, Seigneur, dans notre humanité. Viens nous rencontrer dans notre faiblesse. Viens nous rencontrer, Seigneur, dans nos besoins. Nous reconnaissons, Seigneur, nous sommes faibles. Nous le confessons, nous le reconnaissons. Mais nous reconnaissons une chose encore plus grande. Tu es fort. Nous sommes faibles, mais tu es fort. Et ce matin, nous nous attendons à toi. Nous invoquons ton nom. Nous prions que ta parole soit puissante, remplie d'onction, qu'elle transforme, qu'elle nous change, qu'elle nous attire plus près de toi. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de cette réunion dans le nom de Jésus-Christ. Et toute l'Église Nouvelle Vie dit amen. Est-ce qu'on peut à l'avance applaudir le Seigneur pour ce qu'il va faire ce matin dans ta vie? Allez, plus fort que ça, Nouvelle Vie! Amen! Prenez place! C'est un privilège d'être avec vous ce matin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait plus qu'un an que je ne suis pas venu prêcher ici à Nouvelle Vie. Et je veux vous remercier, Pasteur Claude a fait l'annonce dans la vidéo que Nouvelle Vie allait soutenir notre prochaine implantation de chapelle. La semaine prochaine, je vais annoncer à notre congrégation qu'on va implanter une quatrième chapelle. Je ne peux pas vous dire où, parce que le monde de la chapelle ne savent pas c'est où encore. Alors, écoutez le message sur Internet, mais merci à vous de nous soutenir là-dedans. J'aimerais vous remercier pour votre générosité, remercier Pasteur Claude et toute l'équipe, toute le CA de Nouvelle Vie pour votre générosité. Est-ce que vous pouvez vous applaudir pour votre générosité et votre soutien dans ce projet-là? En 1995, il y a un gars qui s'appelle Gary Chapman qui a écrit un livre qui s'intitulait « Les cinq langages de l'amour ». Et la prémisse du livre, c'est la suivante. Tous les êtres humains donnent et reçoivent de l'amour dans cinq catégories différentes. L'une d'entre elles, c'est les cadeaux, le temps de qualité. Pour d'autres, c'est les services rendus. Moi, j'ai quatre enfants et ma fille, ma plus jeune, son langage d'amour, c'est les services rendus. Et lorsqu'elle avait 3 ans, ses petits frères ont rapidement vu qu'ils pouvaient abuser d'elle avec ça. Léa va nous chercher ci, Léa va nous chercher ça. Et Léa était toujours contente de servir ses frères. Mais à un moment donné, elle a compris l'arnaque et elle a arrêté de les servir. Elle ne sert plus ses frères, mais gloire à Dieu, elle sert encore son père. Merci Seigneur. Pour d'autres, leur langage d'amour, c'est les paroles d'affirmation. Pour d'autres, c'est le toucher physique, non sexuel, seulement l'affection physique. Moi, j'ai fait le test et devinez quoi? Mon langage d'amour, c'est les paroles d'affirmation. C'est sûr, c'est comme ça que j'aime les gens, je prêche. C'est mon langage d'amour à moi. Mon fils, Anthony, c'est le toucher physique. Zachary, mon autre garçon, c'est les paroles d'affirmation. Léa, ma petite, c'est les services rendus. Et mon autre fille, Naya, c'est le temps de qualité. Ma femme, elle, les cinq. Toute la gang. Toute la gang, donne-moi, passe du temps avec moi, aime-moi, parle-moi, c'est à moi. Y a-t-il qui ont une femme comme ça, que c'est les cinq au complet, OK? Hey, prenez 30 secondes et à la personne à côté de vous, dis-lui c'est quoi votre numéro un, votre langage d'amour principal à vous. 1, 2, 3, go! Allez-y! Ça pose la question, quel est le langage d'amour de Dieu? Bonne question, hein? 1 Jean chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alors Dieu aime quand on passe du temps de qualité avec lui, bien sûr. Dieu aime quand on lui donne des paroles d'affirmation dans la louange, quand on le sert, quand on donne. Dieu aime quand on lève nos mains comme pour le toucher. Mais le langage d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Bon, avouons-le. L'obéissance à Dieu, c'est un combat. Hein? Moi, j'ai 41 ans, 26 ans de vie chrétienne. Puis en 26 ans, j'ai des moments où obéir à Dieu, c'était aussi facile que respirer. Mais d'autres moments, à d'autres moments de ma vie, obéir à Dieu semblait être en contradiction avec mes rêves et mes aspirations. Y a-t-il juste moi? Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Parce que c'était tellement facile d'obéir. Et là, la vie amène des tempêtes, des tragédies, des déceptions, des questionnements. Pourquoi Dieu a laissé faire ça? Et l'obéissance vient tout à coup un peu plus difficile. Ou bien tu te bats contre ta chair à une intensité telle que tu penses être le seul chrétien à vivre ça. Et l'obéissance devient un peu plus difficile. J'aimerais te dire, si tu es parmi les chrétiens, que l'obéissance a toujours été facile pour toi depuis le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, j'aimerais te dire ceci, tu n'es pas normal. Parce que pour 95% d'entre nous, il va y avoir des moments où c'est facile d'obéir, puis il va y avoir des moments où c'est difficile. Maintenant, la Bible enseigne qu'il y a deux sortes de motivations pour obéir à Dieu. Il y a des motivations secondaires et il y a une motivation primaire. On va commencer avec les motivations secondaires pour obéir à Dieu. Je vous en donne quelques-unes, une après l'autre, rapidement. Premièrement, Dieu bénit toujours l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, tu vas être béni. Deutéronome 28, Moïse dit ceci, « Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Et là, il commence à faire une nomenclature. Tu vas être béni dans la ville. Tu vas être béni dans la campagne. Le fruit de tes entrailles va être béni. Le fruit de ton sol va être béni. L'Éternel ordonnera à la L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Tu seras la tête et non la queue. Et non, et non, et non. Il continue tout le chapitre 28 de Deutéronome. Quand tu obéis à Dieu, tu vas être béni. Dieu bénit toujours l'obéissance. L'obéissance dans les choses cachées. Hein, lorsque tu vas au magasin puis que le caissier te remet le change en trop, tu ne dis pas « Merci Seigneur de pourvoir à mes besoins ». Tu dis au caissier « Monsieur, vous m'avez donné 10 piastres de trop ». L'obéissance dans les choses cachées. Qu'est-ce que tu regardes le soir quand tu es tout seul chez vous? Qu'est-ce que tu regardes sur ton ordi? Qu'est-ce que tu regardes sur Netflix? L'obéissance dans les choses cachées. L'obéissance dans les petites choses. Tu sais, la petite voix qui te dit « Tu devrais peut-être pas prendre un deuxième verre. Tu devrais pas parler contre ton boss avec les autres employés. » Tu ne devrais pas manger cette malbouffe-là. Tu as déjà mangé une fois du fast-food cette semaine. Tu ne devrais pas garder le téléphone de cette fille-là dans ton téléphone. Tu ne devrais pas garder son numéro. Tu devrais garder ta maison propre. La petite voix qui dit, « Hey, tu ne devrais pas regarder Netflix jusqu'à 2 heures du matin quand tu travailles le lendemain. » Quand c'est l'Église le lendemain, la petite voix qui dit « Tu ne devrais pas laisser traîner le panier d'épicerie en plein milieu du parking. » Tu vois, on passe à la vide. N'importe qui fait ça. Justement, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu, tu es le fils, tu es la fille du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Tu n'es pas n'importe qui, puis tu devrais applaudir ce matin si tu es d'accord avec moi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et Dieu utilise chaque petit geste d'obéissance pour te bénir. L'obéissance amène la bénédiction. L'obéissance amène la joie également. Psaume 16, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. » La vie m'a appris ceci. Plus ça semble me coûter cher d'obéir à Dieu dans quelque chose, plus la joie va être grande quand tu relâches puis que tu choisis d'obéir. Également, l'obéissance amène la faveur de Dieu et le succès. Psaume 1, un de mes textes préférés. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, et mon bout préféré, c'est la fin. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois que c'est possible? Non, ça se peut pas, Pasteur David, ça se peut pas. Oui, ça se peut. Parce que quand tu trouves ton plaisir en Dieu avant tout, tu ne vas pas te lancer dans 50 millions de projets que Dieu ne t'a pas demandé de faire pour te concentrer uniquement sur ce que Dieu t'appelle à faire, puis tu vas avoir le succès dans tout ce que tu fais. Il y a une photo qui va apparaître à l'écran. Frédéric Liber est un de mes adjoints à l'église. Frédéric et son épouse Nadine. Fred, c'est un gars que tout ce qu'il touche, ça marche. Il est comme Joseph, il a une faveur de fou, ce gars-là, tout ce qu'il touche, ça marche. C'est le genre de personne, Fred, s'il n'avait pas choisi le ministère, tu le lâches dans la nature, lousse, tu le revois dans 10 ans, il est millionnaire. Il y a cette, maintenant que je n'envoie pas un aller faire des propositions de business à mon adjoint, OK? Il a renoncé à l'argent pour servir le Seigneur. Maintenant, mais Fred, il est comme ça, tout ce qu'il touche, ça marche. Il organise une réunion de prière pour la chapelle récemment, 170 personnes, un vendredi soir, pour prier, c'est fou, le gars, tout ce qu'il fait, ça marche. Mais s'il y a une chose qui le caractérise, c'est l'obéissance. Frédéric, c'est le genre de gars qui est prompt à obéir à Dieu. Il négocie pas avec Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu va bénir ton obéissance, Dieu va te donner le succès si tu obéis. Mais l'ennemi sait que l'obéissance amène le succès et l'ennemi va tout faire pour t'empêcher d'obéir. Laisse-moi te dire, quand tu décides d'obéir, il va y avoir de l'opposition. Combien savent ça? Hein? Tu décides de te sortir des dettes, de couper ta carte de crédit, ton char brise, ton frigidaire brise, ta laveuse m'a coulé, ton séchoir à cheveux reste pogné dans tes cheveux. Tu comprends ce que je veux dire? Il va y avoir de l'opposition. Tu décides, on va aller à l'église régulièrement. On va arrêter d'être une semaine ici, là, on va y aller régulièrement. Tu te lèves le dimanche, tu décides d'aller à l'église le matin. Ta femme est en retard. Tu te fâches contre ta femme parce qu'elle est en retard. Elle se fâche contre les enfants parce que tu es fâché après elle. Les enfants se fâchent après le chien. Tout le monde est fâché. Personne parle dans la voiture. Personne se regarde. On met la louange. Alléluia. Puis là, tu arrives à l'église. Comment ça va? Tu mets ton masque de chrétien puis tu dis ça va bien à tout le monde. Combien savent de quoi je parle? Il va y avoir de l'opposition quand tu veux obéir. Tu décides de te mettre au régime. Tu vas bien manger. Tu vas au dépanneur acheter un sac de lait et les chips sont tellement en spécial, t'en achètes un, t'en as 72 gratis, il va y avoir de l'opposition. Amen. L'obéissance amène le succès. L'obéissance amène la révélation, psaume 25. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Dieu a des pensées secrètes. Maintenant, la crainte de Dieu, ça revient souvent dans la Bible. La crainte de Dieu, c'est quoi la crainte de Dieu? Deux mots pour la caractériser. Respect et obéissance. Respect, obéissance, ça c'est la crainte de Dieu. Les pensées secrètes de Dieu sont pour ceux qui le craignent. Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je m'apprête à faire? Vois-tu, dans le monde de la finance ces dernières années, il y a eu beaucoup de scandales, hein? Parce que des gens qui avaient accès à des informations privilégiées et ils ont utilisé ces informations-là pour vendre ou acheter les actions et s'enrichir au détriment des autres. J'aimerais dire, dans le royaume de Dieu, il y a des gens qui ont accès à de l'information privilégiée, mais ce n'est pas illégal. L'information vient de Dieu directement. Et Dieu te donne accès à une sagesse, à des choses que tu n'aurais jamais pensé. Et parfois, c'est spectaculaire, mais parfois, c'est juste naturel. Ça vient comme naturellement, même si c'est surnaturel, parce que tu obéis à Dieu. Une révélation. L'obéissance, pardon, autre raison secondaire. C'est secondaire, mais autre motivation. La désobéissance a des conséquences. Si tu veux scraper ta destinée, désobéis à Dieu. Si tu veux manquer ton appel, désobéis à Dieu. La désobéissance est toujours, toujours, semble plus facile sur le moment. Mais crois-moi, à long terme, la désobéissance, c'est plus dur. Mais pas sur le moment. La désobéissance, elle nous ment. Elle nous raconte n'importe quoi. OK, illustration. Sur ton réveil matin, il y a un bouton qui a été inventé par le diable, qui s'appelle snooze, hein? Et snooze te ment. Snooze veut te faire à croire que si tu pèses sur snooze, tu vas vivre les 3 minutes les plus extraordinaires de ta vie. Et là, tu es tenté de snoozer. Et là, quand tu succombes à la tentation et que tu snoozes, il me semble que tout à coup, les couvertes deviennent tellement douces. Mais semble que tu vis un moment qui dure vraiment pas longtemps, mais là, tu snoozes une fois, tu snoozes deux fois, tu snoozes trois fois, and if you snooze, you lose. Alors, c'est génial jusqu'au moment où tu te lèves, puis ta journée démarre sur les chapeaux de roue parce que tu n'as pas pris le temps de la démarrer comme il faut, puis là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai pensé? La désobéissance te ment. Elle nous ment. Ou bien tu décides de t'entraîner. Et là, la tentation de ne pas y aller est tellement grande. Ça sonne tellement bien dans ton esprit, je ne vais pas aller m'entraîner. Mais il n'y a pas une fois où je me suis entraîné, c'est même jamais arrivé d'aller m'entraîner une fois et de sortir de là et de dire, « Man, qu'est-ce que je viens de faire là? » Sérieux, je viens de perdre une heure de ma vie. J'exige un remboursement à quelqu'un. Non, ça ne m'a jamais arrivé. Pourquoi? Parce que la désobéissance nous ment. Autre raison secondaire pour obéir à Dieu, la désobéissance amène la correction de Dieu. Désobéis pas parce que si tu désobéis et que tu es un enfant de Dieu, Dieu va te corriger. Dans Hébreux 12, ça en parle. Ça parle que ceux qui ont, même le mot est fort dans la Bible, c'est le mot châtiment. Dieu châtie et corrige celui qu'il aime. Moi, je connais des gens, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils s'éloignent de Dieu. C'est fou. Dès qu'ils ont une pièce, ils s'éloignent du Seigneur. Alors Dieu les garde avec des moyens limités, disons. Puis moi, je suis comme, « Hey, allume le gros! » À chaque fois que tu as une pièce, tu t'éloignes du Seigneur, Dieu est juste en train de te châtier. Si tu apprends la leçon, que tu restes proche du Seigneur, tu vas avoir en plus la bénédiction financière. Maintenant, ce n'est pas une règle, ça, là. C'est son cas à lui, OK? Vois-tu, quand tu désobéis à Dieu, Dieu va te châtier. Puis peut-être présentement, tu es dans une saison difficile parce que Dieu t'a châtié, mais les Écritures nous enseignent que si tu as part au châtiment, c'est parce que tu es un fils et non un enfant illégitime. Alors remercie le Seigneur pour sa correction sur ta vie. Mais j'aime bien mieux obéir à Dieu qu'avoir besoin d'être châtié par Dieu. Amen! Amen. Ça, c'est des motivations secondaires pour obéir à Dieu. Maintenant, quelle est la motivation primaire pour obéir à Dieu? La motivation primaire, quelle est la chose qui va faire que ça va être le fun d'obéir à Dieu? On va lire le reste du verset 1 Jean 5, 3. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Wow! Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Vois-tu, la motivation primaire pour obéir à Dieu, c'est l'amour envers Dieu. Il y a une relation directe entre mon amour pour Dieu et mon niveau d'obéissance à Dieu. Et il y a deux façons d'appliquer cette vérité-là dans nos vies. Une mauvaise puis une bonne. Voici la mauvaise. Plusieurs croyants disent, OK, je dois montrer à Dieu que je l'aime en lui obéissant. Et si tu fais ça, si tu penses comme ça, ton focus va être sur l'obéissance en premier et tu vas penser des choses comme « Pour être un bon chrétien, je dois… » fill the blank. Ou « Pour être un bon chrétien, je ne dois pas… » fill the blank. Parce que ton focus est sur l'obéissance. Mais si ton focus est premièrement sur l'obéissance, laisse-moi te dire ceci, tu ne seras jamais à la hauteur. Tu vas toujours être dans la défaite. Si tu es parmi ces chrétiens qui travaillent fort pour obéir à Dieu, laisse-moi te poser la question ce matin, comment ça va? Parce que la réponse, c'est probablement mal. Ça va probablement très, très mal. Voici la mauvaise façon d'appliquer cette vérité-là. Mais maintenant, voici la bonne. Voici la bonne façon. Au lieu de te dire, il faut que j'obéisse à Dieu pour lui montrer que je l'aime, voici le mantra. Plus j'aime Dieu, plus j'obéis à Dieu. Et quand tu penses comme ça, ton focus n'est pas premièrement sur l'obéissance, ton focus est premièrement sur l'intimité avec Dieu. Et plus ta relation avec Dieu grandit, plus ton amour pour Dieu grandit, et plus ton amour pour Dieu grandit, plus ton obéissance grandit. Vois-tu, l'obéissance, c'est le débordement, c'est l'overflow de ton amour pour Dieu. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que l'obéissance n'est pas importante. Si c'est ça que tu en conclus, tu n'as rien compris de ce qu'on prêche à tous les dimanches ici à l'Église. Mais la question, c'est quelle est la motivation première de ton obéissance? Est-ce que tu essaies d'obéir à Dieu pour prouver quelque chose? Est-ce que ton obéissance à Dieu, c'est juste un exercice pour muscler ta volonté, ta détermination et ton autodiscipline? Vois-tu, il y a plein de croyants qui vont d'une expérience émotionnelle à une autre, d'une conférence à une autre, d'un concert de louanges à une autre, d'une église à une autre, à essayer de muscler leur volonté pour enfin être capable d'obéir à Dieu, mais leur focus est sur l'obéissance, alors que la clé, c'est que le focus soit sur l'intimité. C'est l'intimité avec Dieu qui produit l'obéissance. Vois-tu, si tu es désobéissant à Dieu dans une sphère de ta vie, ton plus grand problème, ce n'est pas un problème de désobéissance. Ton problème, c'est un problème d'amour. C'est ton amour pour Dieu qui est déficient. Je vais vous illustrer cette vérité-là. OK, motivation secondaire, motivation primaire. On va mettre tout ça ensemble dans une illustration. OK, voici l'illustration. Il y a plusieurs raisons pourquoi moi, David Potier, je ne trompe pas ma femme. OK, voici quelques motivations secondaires. Je dis bien secondaires. OK, des motivations secondaires pour ne pas tromper ma femme. Premièrement, première motivation secondaire, je ne veux pas mourir. Parce que ma femme m'a dit, si tu me trompes, je te tue, mon homme. Alors, conserver la vie est une motivation secondaire, mais une bonne motivation. Deuxième motivation secondaire, je pense pas que je pourrais attraper quelque chose anyway, OK? La dernière fois que j'ai séduit une femme, elle est assise là, elle avait 16 ans, j'en avais 17. On est ensemble depuis 24 ans maintenant. Je serais même pas capable d'attraper rien, je sais pas comment. Je bénis le ciel d'être un disciple de Jésus-Christ et de ne pas avoir besoin d'aller me pogner une date dans un club. Je saurais même pas comment faire, OK? Motivation secondaire, je ne sais pas comment cruiser. C'est une motivation, mais secondaire, OK? Troisième motivation secondaire, j'ai des études en théologie. Non, mais pense-y une minute. Là. Si je perds ma job, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Sérieux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des études en théologie? Motivation secondaire. Quatrième motivation secondaire, mais importante, je briserai le cœur de mes enfants. J'enseignerai à mes filles que ça ne vaut pas la peine de se garder pour un homme parce qu'anyway, il n'y en a pas un qui va y rester fidèle. J'enseignerai à mes gars que ça ne vaut pas la peine de se garder, d'attendre. Ils peuvent se laisser aller à leur instinct animal avec n'importe qui pour faire ce que tout le monde fait. C'est ça que je leur enseignerai. Et je viendrai faire des blessures dans leur âme tellement profondes que ça prendrait des années, des dizaines d'années à guérir. Ça, c'est des motivations secondaires pour être fidèle à ma femme. Mais est-ce que c'est la motivation? Hein, imagine, OK! Potier est en vacances sur le bord de la beach. Et puis là, il y a une femme légèrement vêtue qui passe devant. Hein? Et là, ta chair se met à te dire des choses charnelles. Tu comprends? Des choses charnelles. Il y en a, vous ne connaissez pas ça à Nouvelle-Vie, le langage charnel. Vous êtes trop spirituel pour ça. Mais nous, à Chapelle, on est comme des Corinthiens, on connaît ça, le langage charnel. Et le langage charnel, et là, je ne sais pas qu'est-ce que ta chair te dit. Moi, je sais ce qu'elle me dit, ma chair, par exemple. Et là, ta chair te parle, tu comprends? Et là, voici ce qui se passe jamais. Voici ce qui se passe pas. Ma chair me dit bla 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 bla, et je réponds à ma chair, ben non, je peux pas tromper ma femme, je vais perdre ma job. Vois-tu, si je pense comme ça, je suis rendu vraiment loin dans mon affaire. Non, c'est pas ça que je me dis. Je réponds à ma chair, calme-toi le pompon, potier, t'aimes. Ta femme. Comprenez-vous la différence? Motivation secondaire, motivation primaire. J'ai pas besoin de vous poser la question lequel des deux est le plus fort. Hein? Parce que tu sais, quand tu es tenté, puis là, tu te mets en passant en revue les raisons pour lesquelles tu devrais pas faire ça.
Il y a plein de motivations secondaires qui vont popper comme ça, mais tu vas les flusher aussi vite qu'elles sont arrivées. Ah, il va y avoir des conséquences, je vais perdre ma job. Flush. Ah, telle affaire. Ah, flush. Les motivations secondaires, là, on flush ça comme ça. Mais il y a quelque chose qui est plus fort. Puis, merci Seigneur pour les motivations secondaires. Il y a des moments dans la vie où ça aide. La responsabilité, là, ça aide. Hein? Ça peut aider. Tu as un moment difficile, ton couple traverse une crise. La responsabilité, ça aide. Mais ce n'est pas le carburant de l'obéissance. Ce n'est pas le carburant de la fidélité. Le carburant, c'est l'amour. Amen. C'est que tu aimes Dieu. Puis quand la tentation frappe à ta porte, tu peux énumérer toutes les raisons secondaires. Mais la chose qui te garde, c'est que t'aimes Dieu. T'aimes le Seigneur. Motivation secondaire, motivation primaire. Maintenant, je sais qu'il y a des gens ici qui ont à cœur d'obéir à Dieu, mais qui trouvent ça difficile. Il y a des gens, tu viens, tu entends le message, tu repars, tu es plein de bonnes intentions, tu dis oui, puis ça ne marche pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là. Et je crois que c'est la réalité de plusieurs, parce que on ne comprend pas le concept de l'obéissance dans la Nouvelle Alliance. Alors, je vais prendre les quelques minutes qui me restent pour vous expliquer le concept, la façon que fonctionne l'obéissance dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné à Moïse la loi, et Dieu a écrit la loi sur des tables de pierre. Et le peuple devait mettre en application la loi de Dieu écrite sur des tables de pierre. Mais il y a un prophète qui s'appelait Ézéchiel qui avait annoncé à l'avance un jour nouveau où il y aurait une nouvelle alliance. Et dans cette alliance-là, les commandements de Dieu ne seraient plus écrits sur des tables de pierre. Ézéchiel 36. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Le prophète avait annoncé, un jour va venir, la loi de Dieu sera plus écrite sur des pierres seulement, la loi de Dieu sera plus écrite dans le livre seulement ou sur les parchemins seulement, la loi de Dieu va être écrite dans le cœur des enfants de Dieu. Dieu va leur donner un cœur nouveau, des dispositions nouvelles, des inclinaisons nouvelles, des orientations nouvelles, des affections nouvelles qui sont placées profondément en toi. Il y a un vrai toi quelque part. Si tu es un enfant de Dieu, il y a un vrai toi quelque part. Philippiens 2, Paul dit ceci, « Ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. » Moi, pendant des années, je lisais ce verset-là, puis j'étais comme, « What? Est-ce que le salut, ce n'est pas une grâce? On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et là, il dit, « Travaillez à votre salut. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Il est-tu en train de dire que ça dépend de nous autres? De quoi il parle? Vous savez, la Bible, le Nouveau Testament est écrit en grec. Et on manque parfois certaines nuances dans la traduction. J'aime la façon que les Anglos ont traduit ce verset-là. Au lieu de dire « Travaillez à votre salut », il dit ceci, « Work out your salvation. Work out. » Déjà, ça sous-entend quelque chose. Ça sous-entend que c'est en toi. J'aimerais proposer, l'obéissance, elle est en toi si tu es un enfant de Dieu. Work out your salvation. Ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et souvent, les chrétiens voient l'obéissance à Dieu comme étant une menace à leur volonté. Non, 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 il y a quelque chose en toi qui veut obéir à Dieu. Work out your salvation. Lorsqu'on fait du workout, en anglais, on fait de l'exercice, qu'est-ce qu'on fait? Essentiellement, c'est qu'on prend de l'énergie qui est à l'intérieur, on la fait sortir à l'extérieur, et en la faisant sortir à l'extérieur, ça transforme l'homme extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Il n'est pas en train de leur expliquer comment faire pour être sauvé. Il dit, bien-aimé, il s'adresse déjà à des gens sauvés. Il est en train de leur dire ceci, travaillez à faire sortir ce qui est déjà là, ce qui est déjà en vous. Travaille à faire sortir le vrai toi. Vois-tu, l'obéissance à Dieu, c'est pas quelque chose que tu serres les dents puis t'obéis à Dieu par responsabilité. Je sais qu'il y a des moments comme ça, puis ces moments-là, ils sont précieux parce que des fois, ils nous aident dans les vraies choses. Mais l'obéissance à Dieu, c'est pas je serre les dents puis j'obéis à Dieu, non. L'obéissance à Dieu, c'est work out. Sors-le. Il est là. Il est en toi. C'est à l'intérieur. C'est gravé sur ton cœur. J'ai invité les musiciens à revenir. C'est un pasteur David. Si tu savais, là, si tu savais comment ce que moi je veux, c'est pas ce que Dieu veut. Si tu savais ce qu'il y a dans ma tête, tu savais mes pensées les plus secrètes, les plus profondes, je veux pas faire ce que Dieu veut. Laisse-moi dire ceci. Si tu es un enfant de Dieu, tu veux faire ce que Dieu veut. C'est parce que tu as confondu la voix de la chair avec la voix de l'esprit. Et tu en es venu à croire le mensonge. Ah, moi, j'ai cru ça tellement longtemps. Quand l'ennemi me battait, quand l'ennemi était sur le point de me faire abandonner, de me faire lâcher, de me faire céder à la tentation, l'ennemi réussissait à me faire croire que ma chair, c'était moi. Il peut te battre avec ça. Il peut te démolir avec ça. Ta chair, c'est pas toi. Il y a un vrai toi. Il y a un cœur nouveau, des désirs nouveaux, des affections nouvelles qui sont profondes, qui veulent obéir à Dieu. Il y a un toi qui veut prier. Tu dis, oh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, celle-là. Il y a un toi qui veut prier. Il y a un toi qui veut donner à l'Église, figure donc. Il y a un toi qui veut servir. Il y a un toi qui veut aimer Dieu. Et il y en a, tu penses que ta chair, c'est toi parce que tu as laissé tellement s'encrasser ton cœur. Ton vrai toi, ton vrai cœur est sous une couche de boue épaisse et tu sens plus c'est qui le vrai toi. Tu entends juste la voix de la chair te crier fort. Puis tu as perdu de vue qui t'es vraiment. C'est pas toi. Et Paul explique ça très bien dans Romains chapitre 7. Il dit, c'est pas moi, mais c'est le péché qui est en moi. Oh, OK. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il est en train d'expliquer quelque chose. Un concept très, très important. L'obéissance à Dieu, c'est identitaire. La désobéissance à Dieu, c'est identitaire. Qui tu penses que t'es? Qui tu crois que t'es vraiment? Va déterminer ce que tu vas faire. Mais tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et peut-être que tu crois le mensonge, que la voix de ta chair, c'est toi. J'aimerais dire ceci, C.S. Lewis en parle, il est tellement brillant. Il parle qu'en fait, lorsqu'on est dans un état comme ça, qu'on a l'impression que nos affections sont sur les choses de la chair, sur les choses du monde. En fait, c'est parce qu'on était séduit. Puis on croit que ça, c'est nos affections. Mais Lewis dit, il y a des affections plus profondes. Il y a des affections plus profondes. L'obéissance, c'est identitaire. Alors, si tu crois que tu es un pécheur, je sais que l'enfant de Dieu commet des péchés, OK, mais si tu crois que tu es un pécheur, que tu te définis par ça, je suis pécheur, ben, guess what, comment tu vas agir? Comme un pécheur. Mais lorsque tu lis la Bible, Paul dans Romains 7 dit, non, ça, c'est pas moi, ça, c'est le péché qui vit en moi. Puis dans Éphésiens 1, qu'est-ce qu'il fait avant de leur dire, voici comment être un disciple de Jésus? Il vient les marteler pendant un chapitre, voici ce que vous êtes. Vous êtes des saints. Il commence avec ça, vous êtes des saints. Vous êtes adoptés. Vous êtes élus. Il les frappe avec qui ils sont. Il leur explique qui ils sont vraiment. Parce que la majorité des chrétiens n'ont aucune idée de qui ils sont. T'es pas n'importe qui. Je suis pas n'importe qui. C'est ça que Jacques l'explique d'une autre manière. Quand il dit, en effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Et après s'être observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Et moi, avec mon background évangélique, j'ai grandi dans l'Église. L'Église où j'ai grandi, c'était quand même assez rigide, assez légaliste. Voici comment moi, je lisais ce verset-là. Quand je lis la parole, c'est comme un miroir. Je me regarde dans le miroir, je vois mon péché, mais j'oublie ça, puis je pars faire le péché. Et je ne pense pas que c'est faux, parce que la parole vient nous convaincre de péché. Mais je crois que ce n'est pas le sens principal du texte. Voici ce que je crois, voici ce que j'ai découvert. Je lis la parole. En fait, littéralement, le verset dit, « Celui qui voit la face de sa naissance, la face de sa naissance. » Et le mot grec, c'est « genéseos ».« Genéseos », »,« genèse ».« Genèse 1, 26. « Dieu créa l'homme à son image. » Oh! Scott McKnight, le théologien, dit, « En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que tu te regardes dans le miroir de la parole, puis tu vois l'homme créé à l'image de Dieu, la femme créée à l'image de Dieu, ce que tu es supposé d'être. Puis là, tu oublies ça. Puis tu t'en vas vivre comme quelqu'un que tu n'es pas. Je ne sais pas pour toi, mais ça, ça m'encourage vraiment. Parce que l'obéissance vient de l'intérieur. Vois-tu, si l'obéissance ne venait pas de l'intérieur, je pourrais en finir par croire que je ne suis pas un fils, moi! Pourquoi que j'ai toutes ces tentations-là? Pourquoi que j'ai toutes ces difficultés-là? Pourquoi je pogne encore les nerfs alors que je devrais arrêter de... Pourquoi? Work out! C'est en toi. C'est là. Il y a un vrai toi que tu vois dans la parole. Puis quand tu vois le vrai toi, puis que tu ne l'oublies pas, tu te revires, puis tu t'en vas agir selon ce que t'es vraiment. Et c'est vraiment bon. Je sais pas si vous aimez ça, mais moi, j'aime vraiment ça. C'est identitaire. C'est identitaire. L'obéissance, c'est identitaire. La désobéissance, c'est identitaire. Un de mes films préférés s'appelle « Les diamants du sang ». C'est un film début des années 2000. C'est un film qui raconte l'histoire d'enfants soldats. Comment on prend des enfants dans certains pays. Et on les menace de se faire tuer. Et sous la menace, c'est ta vie ou c'est la vie de l'autre. Et là, on les force à tuer quelqu'un. Et après ça, ils deviennent comme des machines de guerre qui font n'importe quoi. Et le film raconte l'histoire d'un de ces enfants-là. Et pendant le film, il y a une poursuite. Le père cherche son fils. Puis à la fin, il le trouve. Et lorsqu'il trouve son fils, il se retrouve face à face avec lui. Et son fils a une arme. Et son fils veut tuer son père. Et là, le père, ce qu'il fait, il commence à lui dire qui il est vraiment. Il dit, « Moi, je te connais. » Puis le petit gars en tremble, il est rendu, il a le cerveau lavé. Il dit, « Moi, je te connais. T'es un bon garçon. T'aimes ta maman. T'es serviable. » Puis il commence, Éphésiens chapitre 1. Commence à lui dire qu'il est vraiment. T'es adopté, t'es élu, t'es un saint, t'es mon enfant. Commence à lui dire qu'il est vraiment. Et lorsque le petit garçon écoute et reçoit la vérité de ce qu'il est vraiment, il baisse les armes puis se jette dans les bras de son père. C'est de même que ça marche, l'obéissance. C'est de même que ça marche. Ça ne marche pas, l'autre. L'autre, ça s'appelle du légalisme. L'autre, ça s'appelle muscler ta volonté. Puis puis muscler ta volonté, ça mène à deux choses. Soit tu n'y arrives pas, puis tu es complètement découragé. Soit tu y arrives, puis tu deviens enflé d'orgueil parce que tu y es arrivé. Puis les deux mènent à la mort. Mais quand tu comprends. Plus j'aime Dieu, plus j'obéis à Dieu. Puis que tu mets ton focus sur aimer Dieu, ta relation avec Dieu, ça va engendrer l'obéissance. Voici ma question en terminant. En quoi tu résistes à Dieu là? C'est quoi la chose que Dieu vous parle et que tu résistes? Il y en a, là, c'est de donner à l'Église. Vous venez, vous mettez de temps en temps quelque chose, mais vous êtes, puis le Seigneur vous le dit, mais vous trouvez plein de raisons pour justifier pourquoi vous ne donnez pas. Il y en a, c'est que vous ne voulez pas vous impliquer, vous dites « Ah, moi, je laisse ça aux jeunes. » il y a des personnes ici, il y a des femmes ici, là. Ce que Dieu te parle, c'est que tu devrais arrêter de parler de ton mari comme ça avec tes amis. Mais parce que tu es fâché contre lui, tu résistes. Tu dis, il ne mérite pas de toute façon que je parle en bien de lui. Elle ne mérite pas que je parle en bien d'elle. Qu'est-ce que Dieu te parle? Qu'est-ce que Dieu dit? Il y a des personnes ici qui sont à ça. Qui sont à ça de commettre un adultère. T'es à ça. T'as mis le pied. Puis ce matin, c'est la voix de Dieu qui vient et qui dit, ça, c'est pas toi. C'est pas toi. Tu vas pas faire ça. Ça, c'est pas toi. Je suis pas n'importe qui. Je fais pas n'importe quoi. Il y a des célibataires ici ce matin, tu te dis, mais moi, je peux pas obéir à Dieu. Je peux pas obéir à Dieu parce que je peux pas figurer comment je pourrais marcher dans la pureté en attendant que Dieu me donne quelqu'un. Combien de temps ça peut prendre? Ça peut prendre un an, ça peut prendre trois ans. Ça peut... Impossible! Si c'est toi, voici c'est quoi ton problème. Ton problème, là, c'est que tu veux la grâce pour demain, aujourd'hui. Mais la grâce de demain, elle ne viendra pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas avoir la grâce pour aujourd'hui. Puis demain, tu auras la grâce pour demain. Il y a des gens dont le mariage est dans une saison très difficile. Je ne peux pas rester là-dedans. C'est insupportable. C'est parce que vous voulez la grâce pour demain, aujourd'hui. Parce que la grâce pour aujourd'hui, est là. Elle est disponible. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Elle est là, la grâce. Elle est là, là. Elle est disponible là, aujourd'hui. Mais si tu veux la grâce de demain, oublie ça. Demain, il va falloir que tu ailles dans les bras de Dieu pour cultiver ta relation avec Dieu, pour recevoir... Ton amour pour Dieu augmente, puis ton obéissance va suivre dans le même sens. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux tout donner à Dieu. Je ne veux pas rien garder. Il y a des gens ici ce matin que tu as besoin de venir t'offrir à Dieu. Tu as besoin de venir au pied de la croix, dire, Seigneur, voici la chose que je résistais. Voici la chose que tu me disais. Parfois, c'est un péché, ou parfois, ce n'est pas un péché. Parfois, c'est une bonne chose que Dieu veut que tu fasses, mais tu résistes. Et dire au Seigneur, Seigneur, j'abandonne tout. Je me consacre à toi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier ensemble. Père Céleste, je te prie pour chaque personne qui est ici. Seigneur, je prie qu'on puisse comprendre c'est quoi l'obéissance, la vraie. Qu'on puisse... Cherchez d'abord Dieu. Cherchez d'abord toi. Seigneur, on ne peut pas t'obéir par nos propres efforts. On s'épuise. Mais lorsqu'on s'approche de toi, lorsqu'on cultive notre relation avec toi, oh là, c'est différent. Là, notre obéissance va suivre notre amour. Alors, Seigneur, je te prie, on s'approche de toi ce matin. On confesse nos fautes. On veut renoncer à tout ce qui nous empêchait d'obéir pleinement. Et on veut te poursuivre, toi, et t'aimer, toi, plus fort que n'importe quoi.
Et notre obéissance va simplement suivre. Père, je te prie pour tous ceux qui sont dans un combat présentement. Tous ceux qui disent « j'arriverai jamais à obéir ». Non, je te prie ce matin que ton esprit vienne leur parler, les convaincre, faire ce que moi je ne peux pas faire, ce que le travail que je ne peux pas faire, fais-le dans le temps de louange, Père. Viens leur parler pendant le temps de louange. Et viens, Seigneur Dieu, entourer chaque personne qui crie à toi de ton amour. Viens nous révéler ton amour afin qu'on puisse être capable d'obéir et de marcher dans tes voies. Dans le nom de Jésus, toute l'Église dit amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? Et on va chanter un chant. En terminant, le chant s'intitule « Consécration ». Donne-moi un cœur tout entier. Quel chant merveilleux, vraiment approprié pour ça. Alors qu'on va chanter, c'est pas juste le chant de la fin, là. Si tu pars puis que tu t'offres pas à Dieu, c'est ça, là. C'est toi l'offrande. Tu viens, Seigneur, je veux t'obéir en toutes choses. Je m'offre à toi. Chantons-le ensemble. Consécration.